France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Genet, Rimbaud, Desnos, Pasolini, Artaud, les fusillés de la Commune ou les visages de l'apartheid, depuis ces ombres irradiées du plateau d'Albion en 66, d'un geste artistique et politique assuré, Ernest Pignon-Ernest donne peau et âme humaine aux murs lépreux du monde entier. Ces sérigraphies en accouchent une légende des siècles, poétique et tragique, de Paris à Jérusalem, de Naples à Soweto, de la prison Saint-Paul de Lyon jusqu'à Ramallah. Au début, il y a un lieu de vie sur lequel je souhaite travailler, explique Ernest Pignon-Ernest. J'essaie d'en comprendre, d'en saisir à la fois tout ce qui s'y voit, l'espace, la lumière, les couleurs, et dans le même mouvement, ce qui ne se voit pas, ne se voit plus. L'histoire, les souvenirs enfouis, la charge symbolique. Dans ce lieu réel, saisi ainsi dans sa complexité, je viens inscrire un élément de fiction, une image, le plus souvent d'un corps à l'échelle 1. Cette insertion vise à la fois à faire du lieu un espace plastique et à en travailler la mémoire, en révéler, perturber, exacerber la symbolique. En 2005, Ernest Pignon-Ernest était l'invité de Surpris par la nuit, entouré du plasticien Pascal Convert et de la philosophe de l'art et des images, Marie-Josée Mondzin.
Surpris par la nuit.
Ernest Pignon-Ernest, à hauteur d'homme, proposé par Elisabeth Couturier.
Régis Debray dit, à propos de votre travail, « Osons le mot, le musée fait le trottoir.
» Il dit « Le musée fait le trottoir. »
Osons
le dire, « le musée fait le trottoir. » Mais alors, ouais, il sous-entend que c'est plutôt une bonne chose, que c'est une transgression et que le musée, qui est plutôt en général du côté des nantis, de l'élite et tout, devient une chose populaire, directe et au niveau d'homme. Voilà. Si c'est ça qu'il veut dire, en général, je suis d'accord avec lui.
Est-ce que le terme d'artiste vous convient? Est-ce qu'on pourrait plutôt vous donner celui d'interventionniste ou d'actionniste?
Ouais, enfin, je crois que le terme d'artiste est plus général, plus générique. Au fond, il est plus juste. Moi, je dirais poète, quoi. Parce que je crains que interventionniste ou actionniste et tout sont des trucs qui sont liés à des conjonctions passagères pour l'instant, quoi. C'est un vocabulaire qui naît de mode conjoncturel, quoi. Donc, je tiens pas à avoir ça. Donc, je suis un artiste. Bon, presque, je pourrais dire que je suis peintre.
Ernest Pignon-Ernest a construit son œuvre à la marge des milieux officiels de l'art. En suivant son intuition, en vagabondant au gré de ses émotions, en se laissant guider par ses sensations, il est parvenu, de manière originale, à traduire son idée de l'art comme partage. L'œuvre devient alors le médium d'une mémoire collective, mettant en réseau un nombre infini de réminiscences superposées et d'informations visuelles juxtaposées. La ville lui sert de toile de fond. Il prend le pouls de sa respiration, scrute les effets de l'ombre et de la lumière dans ses rues et observe les pores des murs avant d'y coller la nuit, tel un voleur, ses images éphémères. Celles-ci surprennent par leur beauté les passants distraits. Ses dessins, voués à une disparition programmée, convoquent les maîtres du passé. Rubens, Michel-Ange ou Caravage redessinent, par leur présence furtive, l'architecture de nos pensées. Au coin d'une rue, à l'angle d'un carrefour ou contre la vitre d'une cabine téléphonique, elle réveille nos consciences de citoyens pressés et aveuglés. Elles offrent aussi à notre imaginaire une plage ouverte où le temps et l'espace naviguent hors frontières. On comprend alors pourquoi le travail d'Ernest Pignon-Ernest ne se laisse pas volontiers étiqueter.
Presque, je pourrais dire que je suis peintre. Pour pas. Ouais, parce que.
Ça, c'est carrément de la provocation.
Non, je crois que beaucoup disent ça. Récemment, je suis allé écouter Boltanski, il dit qu'il est peintre. Ce que je propose, c'est pas seulement plastique. Mm-hmm. C'est pas seulement plastique. Bon, mon travail, ça se résume à ça. Je travaille sur des lieux. Hein. Quand je travaille sur des lieux ou sur des événements ou sur. Un moment social où... Mais quand je travaille sur des lieux de toute façon, parce que je colle des images. Hein. Enfin, mon travail, pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas, on peut résumer mon travail comme ça. Je choisis des lieux. Alors, je choisis les lieux du point de vue du visible. Alors, en peintre ou en sculpteur, je choisis les lieux pour leur qualité plastique.
Comment ça se passe,
je marche beaucoup et j'assimile parce que ce que je fais, c'est un travail sur l'espace. C'est pas un travail frontal. Et puis, je m'intéresse peu aux choses qui se passent dans les lieux spécialisés. Je travaille dans la rue, donc je marche beaucoup. Je marche la nuit, le jour. J'appréhende, dès que j'ai commencé à cerner, à repérer un lieu, j'essaie d'aller vers lui, par la gauche, par la droite, en pleine face. J'essaie de le rencontrer.
Vous prenez pour une caméra.
Voilà. Mais oui, non, mais j'essaie d'anticiper la façon dont on rencontrera l'image que je vais mettre dans le lieu. Donc, pour faire ça, il est nécessaire que j'ai appréhendé, que j'ai compris, que j'ai assimilé le lieu dans toute sa complexité. Il y a une partie donc qui est très physique, mais alors c'est à tous les niveaux que j'essaie d'appréhender le lieu, c'est-à-dire la couleur des murs, comment la lumière vient dessus dans la journée, comment elle tourne dessus, la texture du mur, la matière de l'enduit, tout ça. Donc c'est vraiment un travail de plasticien, de peintre ou de sculpteur. Comprendre l'espace, comprendre les couleurs, le rythme urbain des lieux dans lesquels je travaille. Donc, je fais un gros travail sur ce qui se voit. Et là, c'est le corps qui est en jeu, moi qui marche, qui essaie de penser le face-à-face que je vais provoquer entre les gens qui y sont tous les jours et mon image.
Vous vous mettez à la place du futur spectateur.
Où là, je vis comme les gens, oui, c'est ça. Et dans le même temps, presque, je travaille, et alors là, c'est plus dans la tête, c'est plus intellectuel.
Oui.
Simultanément, j'essaie de comprendre le lieu physiquement et de comprendre, quand je dis physiquement, j'essaie de comprendre, de saisir ce qui se voit, et simultanément de comprendre, d'assimiler, de connaître tout ce qui se voit pas, c'est-à-dire l'histoire des lieux. Les souvenirs qui les hantent,
la mythologie,
leur force symbolique,
les luttes qu'il
voilà,
y a eu,
ce qui s'est passé, leur potentiel symbolique comme
de
ça.
De quoi ils sont porteurs.
Voilà. Donc, et mon matériau, il est fait autant de ces souvenirs qui marquent les lieux que des qualités plastiques. C'est la conjonction des deux.
Ernest Pignon-Ernest, pourquoi au fond c'est la ville qui a retenu votre attention et Pourquoi la ville est le cadre de vos interventions, plus que la campagne? Vous avez eu quelques parenthèses bucoliques?
Parce que non, c'est comme disait l'autre, parce que c'est l'espace de l'espèce, la ville. C'est parce que c'est là que vivent les hommes et les femmes. Surtout, et non, je travaille là parce que c'est là que l'histoire des hommes s'inscrit, parce que je m'intéresse à l'architecture, à l'espace de la ville, même plastiquement, c'est ce qui m'intéresse, ouais, vraiment.
On a souvent parlé ensemble, je vous ai dit, vous devriez aller à New York, je suis sûre qu'à New York, il pourrait se passer des choses, mais finalement, vous êtes très attaché à la Méditerranée.
Oui, c'est bien sûr, hein. c'est évident. Mais c'est vrai que j'aurais dû faire New York, parce que d'ailleurs, New York, je ne me sentais pas dépaysé. J'y suis allé 2-3 fois avec l'intention d'y travailler. Mais il y avait cette une espèce de violence de la police. Moi, j'erre la nuit dans les rues tout le temps. Je ne demande pas d'autorisation. Et mes amis de New York m'ont dit, tu te feras casser la gueule par les flics. Ils vont t'attraper quand tu colles. Voilà. Et donc, ça m'a un peu refroidi, quoi. Mais ça me tentait beaucoup. Parce que, après Naples, qui est, au fond, Naples, c'est la ville des mythes antiques. Donc, à Naples, c'est l'Énéide, c'est Virgile, puis c'est Pompéi, puis pour moi, c'est Caravage et tout ça. Mon iconographie à Naples, je l'ai prise dans l'histoire de la peinture. Et je me disais, je vais travailler à New York et prendre mon iconographie dans l'histoire du cinéma. Et ça me tentait beaucoup. Ouais, de Scorsese à Woody Allen ou Paul Auster même. Hein, voilà, c'était un peu ça. Ça me tente beaucoup. D'ailleurs, de temps en temps, j'y repense, hein, bien sûr.
Pascal Convert, vous êtes plasticien. Il y a une petite génération de différence entre vous et Ernest Pignon. Vous travaillez sur la mémoire, vous travaillez sur l'actualité, notamment sur les photos de presse. Et vous avez plusieurs fois marqué votre intérêt pour le travail d'Ernest Pignon. Ernest, pour vous, plasticien, qu'est-ce qu'il a éveillé et réveillé?
Qu'est-ce qu'il éveille? Il éveille d'abord une forme de curiosité par rapport au monde. C'est quelqu'un qui est ouvert au monde, donc il éveille par rapport au monde. Je pense que des tas de gens peuvent être attentifs et étonnés, voire quand on voit surgir un portrait de Rimbaud dans une cabine téléphonique ou d'autres images, ça éveille. Voilà, je dirais que des gens qui passent, qui ne sont pas sensibles, qui ne vont pas dans des musées, qui ne vont pas dans des galeries, d'un coup ils sont éveillés, ils ont une attention, ils sont touchés ou ulcérés d'ailleurs, je ne sais pas, parce que peut-être que les gens sont absolument furieux quand on met des entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler des graffitis dans une cabine téléphonique. Donc ils sont en tout cas éveillés et réveillés, c'est-à-dire je pense que c'est quelqu'un qui revisite des formes d'art classique, et de manière que je trouve très intéressante et très active. Ça, c'est un paramètre, je dirais, qui par rapport au caractère très, très autoritaire de l'art contemporain, il faut remarquer ça, c'est un ce qu'on pourrait qualifier, si vous voulez, de classique. C'est un classicisme réveillé. Je crois que ce que j'aime bien chez Ernest, c'est que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va lui dire ce qu'il a à faire. Et ce qui, d'après moi, est très rare chez les artistes aujourd'hui. C'est pas une posture de refus, c'est absolument pas ça. Mais je pense que, je le répète, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va dire à Ernest ce qu'il a à faire.
Ernest Pignon, Ernest, est-ce que c'est une responsabilité d'être artiste?
Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la responsabilité, et je pense que chacun peut appréhender sa responsabilité d'artiste comme il veut. Voilà. Moi, il se trouve que quelquefois, parce que je suis très sensible à la vie des gens, aux drames de notre époque et tout ça, j'ai traité de problèmes comme le sida, comme la guerre d'Algérie, voilà.
L'avortement.
Comme l'avortement, comme le problème de l'immigration et tout ça. Parce que ça me touche, et qu'en fait, je trouve que ce sont des thèmes qui se prêtent aussi bien que d'autres à une réflexion poétique, à une recherche plastique. Je vois pas pourquoi. Les choses qui touchent à la vie des gens et à leur quotidien se prêteraient moins à des inventions plastiques ou conceptuelles que des pommes ou que du kitsch, quoi. Ouais, vraiment, je vois pas pourquoi. Mais je conçois tout à fait que des artistes s'en tiennent à l'écart, hein, vraiment tout à fait. Et je pense que les découvertes, les innovations et un regard nouveau peuvent venir aussi bien de cela, hein, bien sûr.
Par exemple, parlons de Mondrian.
Bien sûr,
oui.
Mondrian, Malevitch et Kandinsky sont des choses essentielles pour le regard, pour notre regard, notre sensibilité, notre intelligence, notre compréhension, quoi. Mais déjà, presque, je dirais, le rôle d'artiste, c'est de ne pas accepter d'avoir de devoir. Déjà, non, c'est pas, il faut rien sentir comme un devoir. Après, déjà, hein, c'est comme un a priori. Mais un art qui ne provoquerait aucune émotion, aucune réflexion, aucun changement de regard me semble. Ça m'intéresse pas, quoi. C'est une déviation. C'est une propension aujourd'hui. Il y a une pression du milieu, une espèce d'alignement. Voilà. Moi, je me suis toujours donné la liberté de faire vraiment ce que j'avais envie. D'une part, en n'ayant jamais pensé que je gagnerais ma vie avec ça, déjà. Ce qui m'a. Parce que si on se prépare à vendre des tableaux quand on a 18 ans, on est amené plus ou moins consciemment à faire des tableaux qui se vendent, voilà. Comme moi, j'avais jamais pensé que je serais artiste, aller coller 1000 sérigraphies dans les rues, c'est un acte qui a aucune logique économique, complètement absurde.
Mais
c'est-à-dire
quand...
la semaine d'après, je cherchais un travail pour les payer, quoi. Donc, et j'avais jamais pensé que ces interventions dans les rues pourraient un jour me rapporter quoi que ce soit. J'avais jamais pensé vivre d'un... Comme je m'en faisais, j'avais pas l'idée de faire des tableaux. Même quand j'ai peint, puisque j'ai fait quelques fois, j'ai fait des tableaux qui faisaient 8 mètres par 4, qui n'étaient pas pensés... il était exclu de les vendre à un particulier pour les mettre dans son appartement, puisque je faisais des grands tableaux sur des thèmes d'actualité, 8 mètres par 4, des choses comme ça. Donc, j'ai jamais pensé tableau de chevalet, tableau pour mettre dans le salon, même de gens très avertis de l'art contemporain. J'ai jamais pensé comme ça.
C'est ça.
Donc, quand j'ai été amené à faire ces interventions dans les lieux réels, les premières fois avec des pochoirs, l'autre fois, la seconde fois avec des sérigraphies, j'avais jamais pensé qu'un jour je pourrais vivre de ça. Voilà.
L'étiquette d'artiste engagé vous a longtemps collé à la peau. Le travail sur Naples, qui a dévoilé la complexité de votre démarche, l'a un peu fait oublier. Est-ce que vous revendiquez toujours la portée politique de votre art, Ernest Pignon-Ernest?
Ouais, je l'assume, mais je m'en méfie, c'est-à-dire je veux pas être enfermé là-dedans. J'ai travaillé sur des thèmes, ouais, qui sont politiques parce qu'ils parlent de la vie des gens aujourd'hui. J'ai traité, mais comment ne pas avoir envie de se saisir des problèmes de l'avortement ou de l'immigration. Je l'ai fait il y a plus de 20 ans, hein, les problèmes de l'immigration, on le sentait venir. Ça c'était pas aussi violent que maintenant. Mais parce que je parle, ouais, de la vie et des drames que vivent les gens. C'est ça qui me touche, qui m'intéresse, les choses sur lesquelles on peut intervenir. Moi, je vais à la mer, hein, je fais de la plongée, puisque j'habite sur le port, me vient pas l'idée de peindre la mer, quoi.
Oui, j'ai lu.
Les problèmes. Quand je vois des gens qui peignent, il y en a des fois sur les rochers près de chez moi, ça me fait toujours penser au type de Saint-Pé, quoi. Parce que Saint-Pé a très bien témoigné de ça. Petit bonhomme comme moi, face à l'océan, comme ça. J'adore ça.
Ernest Pignon-Ernest, vous exposez actuellement à la maison Elsa Triolet-Aragon, à Saint-Arnoult en Yvelines, et ce jusqu'au 27 novembre 2005. Vous intervenez dans la rue à travers des dessins que vous collez sur les murs. Que montrez-vous lorsque vous exposez ?
Presque toujours mes expositions sont constituées de quelque chose qui est un peu comme l'exposé d'une démarche. C'est-à-dire que contrairement aux expositions qu'il y a d'habitude, aussi bien là-bas que dans les musées, ce ne sont pas les œuvres elles-mêmes qu'on voit. Et donc j'expose un peu la démarche, c'est-à-dire qu'il y a des croquis préparatoires et puis des photos qui montrent les images que je mets en situation.
En fait, vous montrez l'avant et l'après de vos œuvres.
Le processus du travail.
Le processus du travail. L'œuvre elle-même n'est pas présente.
Non, parce que l'œuvre elle-même, c'est pas mon dessin.
Non.
C'est pas le lieu lui-même, c'est la conjonction de tout.
Oui.
C'est un peu conjonction de tout. Je veux dire que des fois, on a résumé mon travail en disant que je mets des images en situation. Mais c'est même pire que ça, en quelque sorte. C'est que c'est pas que je fasse des images en situation. J'essaie de faire de la situation l'œuvre même. Quelquefois, je travaille sur le temps. Quelquefois, et toujours sur les lieux, et quelquefois sur le temps, sur le moment et tout ça. Donc l'œuvre, elle est dans toute sa complexité, qu'à certains moments, à des moments précis, il y a la conjonction, il y a une espèce d'interaction entre le lieu, le moment, et l'image que je viens glisser dans ce moment, et qui produit
de l'émotion,
de la réflexion, un regard différent sur le réel, un regard différent sur le quotidien. Genre qu'elle produit à la fois, j'espère, de l'émotion, de la réflexion.
Ceux de la poésie vécue, le titre de cette exposition.
On peut diviser les poètes en deux sections comme ça. Et moi, je me suis saisi toujours et j'étais toujours passionné par ceux-là, quoi, qui sont emprises sur la vie. Je commence à travailler avec les poètes, avec Mayakovsky et pour finir avec, pour l'instant, avec Robert Desnos, quoi.
Ce sont des poètes qui ont essayé de changer les choses.
Qui ont fait les choses et qui s'en sont saisis, qui ont compris le monde en train de se transformer, là. C'est même, pour Mayakovsky, c'est même pas la peine de le dire. Et mais Desnos aussi, parce qu'on est là dans la maison de la radio, c'est le premier qui a vu ce que portait la radio, ce que portait le cinéma, ce que portait le jazz. Je veux dire que Robert Desnos, il écrit dans les années 30, il faudrait faire des œuvres d'art sur des objets du quotidien, sur la cuillère, sur la fourchette. Il a anticipé complètement les pop ou le nouveau réalisme. Il dit tout ça. J'imagine un sculpteur qui ferait une locomotive en marbre, ou alors il dit je me demande quelle technique inventera le sculpteur qui voudra faire un hommage au rayon X. C'est-à-dire imaginer une sculpture de rayon X, c'est-à-dire qu'il était, donc c'était vraiment...
Est-ce que vous sépareriez les artistes en ces deux catégories, c'est-à-dire ceux qui agissent sur le réel?
Ouais.
Et ceux qui ne... dont ça n'est pas le propos.
Ouais, mais sans sectarisme, je ne crois pas qu'il faut à tout prix agir sur le réel. Non, je ne suis pas pour une espèce d'art au service du réel, ou au service de politique, ou au service de quelque engagement. C'est-à-dire, pour moi, Henri Michaux est un très grand poète, il n'est pas intervenu dans la vie sociale ou quoi. Il est plus important pour notre époque, à mon avis, Henri Michaux que Paul Éluard.
Ernest, pour moi, n'utilise pas la rue comme une scène ou comme un espace qui serait prétexte à autre chose.
Marie-Josée Mondzin, philosophe.
C'est comme si la rue lui parlait, comme s'il entendait à partir des pierres et des murs et des lieux publics. Ça peut être une cabine téléphonique comme le mur d'une cité ancienne et vénérable. Et c'est comme s'il entendait le murmure des objets lui confier un appel au sens. Un appel au sens et il y répond en produisant des parcours, pas seulement pour les yeux, mais pour les corps. C'est-à-dire qu'il place ses images dans cet espace en les offrant à une sorte d'aventure imprévisible qui est qui passera par là, à quel rythme, comment, à quel moment, combien de temps durera cet objet de papier fragile, comme ça, plaqué sur un coin, par qui sera-t-il vu, comment vieillira-t-il, y aura-t-il des interventions sur ce papier? Est-ce que la façon dont il va vieillir ou se détruire va produire d'autres couches de signification? Ce qui fait que, je dirais que ça ressemble à une sorte de pratique moderne de la ruine. Quand nous allons dans des hauts lieux de la Grèce antique ou de l'Asie mineure et que nous voyons des bribes et des restes de la civilisation grecque, et qu'à travers ces fragments, nous reconstituons une vie, un sens, une histoire, un passé et donc une mémoire qui nous parle, nous le faisons aussi à partir de fragments qui, tout en étant assez solides pour avoir duré, ont été trop fragiles pour rester les mêmes.
J'aimerais bien qu'on regarde votre parcours avec, vous savez, ces périodes charnières, ces travaux qui, à un moment, font basculer et précisent la démarche. Alors, parlez-moi un peu du plateau d'Albion.
En fait, je m'étais installé dans le Vaucluse. En deux mots, je faisais des trucs pour gagner ma vie. Depuis que j'ai 15-16 ans, je fais des dessins. Donc, j'ai la chance de vivre du dessin depuis que j'ai 15-16 ans. Donc, au moment où j'ai gagné de l'argent en faisant la villa d'un dentiste, les dessins pour moi. Et donc, je me suis installé dans le Vaucluse avec, quand je faisais ces grandes peintures-là, des grands tableaux énormes comme ça, de 8 mètres, 3
des
mètres.
Des fresques.
Ouais, des fresques.
Abstraites ou figuratives?
Non, c'était un mélange de dessins très objectifs, très réalistes. Alors, je savais pas que d'autres, dans la même période, je sais pas.
Rancillac.
Voilà, peut-être. Voilà, c'était des choses c'était comme cette ordre. Mais sinon, que Rancillac faisait avec des aplats déjà.
Et
des projections, ou Fromanger, oui. Rancillac, tout ça.
Vous étiez dans cette
connaissais
veine-là.
Pas. Je ne les connaissais pas du tout. Voilà. Donc, à la fois, j'avais des grands tableaux, parce que, mettons, j'ai retrouvé des photos récemment. J'avais un tank américain, grandeur nature, hyper réaliste, qui était fait d'après des photos. Et à côté, je confrontais des choses beaucoup de l'ordre plus, on dirait maintenant un peu expressionniste, comme ça, un peu, en toute humilité, j'étais loin du compte, dans une facture plus tourmentée, plus qui venait, qui,
je dis, en étant loin du compte. Ou ouais, américain?
Non, genre Bacon ou même des dessins d'Avelikovitch. C'était pas exactement ça, mais il y avait une chose comme ça. Et je confrontais des choses très objectives, venues de la photo, à des choses beaucoup plus sensibles, qui se venaient se heurter les unes contre les autres, en quelque sorte. Voilà. Il y avait une espèce de confrontation entre de l'objectif et du subjectif, pour dire très, très simplement. Voilà. Et donc, j'étais en train de travailler là-dessus. Je vais m'installer pour pouvoir être à l'aise. J'avais loué un café fermé d'une ancienne mine dans le Vaucluse. Et au moment où je me mets pour peindre là, et j'apprends qu'on installe la force de frappe atomique. Voilà. Donc les sillots, il y avait à l'heure qu'il est, je peux plus dire les chiffres exacts, mais des centaines de fois Hiroshima enfoui, quasiment sous les champs de lavande qui m'avaient fait m'installer dans le Vaucluse, quoi. Vraiment, j'étais allé là-bas parce que je trouvais que c'était le plus beau coin de France, et là-dessous, cet abîme de mort, quoi, vraiment incroyable.
Le monde invisible,
voilà,
déjà.
Oui, et puis de cette menace terrible de mort, comme ça. Et je me suis dit, je vais essayer d'exprimer ça. Et avec la peinture, c'était impossible. C'est impossible de dire, enfin, à moins d'être... c'est là que j'ai vu que je ne serais jamais Picasso, bien sûr, que je ne ferais jamais Guernica, parce que pour moi, c'est bien sûr le plus grand, quoi. Et donc, je réfléchis comment exprimer ça. J'ai pris des documents sur le nucléaire, sur toutes les erreurs que ça portait. Et puis, peu à peu, comme une évidence, il s'est imposé cette idée qu'il n'y avait que dans les lieux mêmes que je pouvais mettre le doigt sur cette tension, sur cette contradiction. Et donc, parmi les documents que j'avais trouvés, il y avait ces deux photos qui existent, que peut-être les gens qui nous écoutent connaissent. Il y a deux photos qui ont été provoquées par l'éclair nucléaire. C'est-à-dire que les gens ont été complètement décomposés. On n'a plus, les gens ont disparu. Et il ne reste que leur ombre. L'empreinte sur le mur. C'est-à-dire que le mur est brûlé par l'éclair nucléaire. Le mur est devenu pratiquement blanc. C'est l'os du mur, quasiment. Et puis, il reste une silhouette grise qui est les deux, qui sont ces hommes. Il y en a un, il y a une échelle à côté de lui.
C'est à Hiroshima, hein?
Voilà. Ouais. Et donc, je suis parti de ces deux photos. J'ai fait des pochoirs de ces images, de ces personnages. Donc j'ai mis dans ces lieux près du plateau d'Albion ces silhouettes noires. Voilà. Donc c'est la première fois où je me suis rendu compte que c'était qu'il n'y avait que en travaillant sur le réel que je pouvais exprimer ce que je cherchais.
Là, on a déjà l'intérêt pour l'empreinte. On a aussi l'intérêt pour ce qui n'est pas visible. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que finalement, vous avez définitivement abandonné l'idée de faire une œuvre, c'est-à-dire de l'objet comme œuvre.
Oui. Mes premiers contacts avec le monde de l'art, parce que je n'étais pas dans ce milieu-là, se sont faits avec les gens qui sont des spécialistes des objets, parce que dans
vous
le magasin
niçois.
Ben,
je suis
niçois, êtes, voilà. Et j'ai connu Armand
et les nouveaux réalistes,
et donc
Reiss.
Voilà tous ces gens qui faisaient des œuvres, des objets comme ça.
Armand, le montreur d'objets,
voilà, complètement.
Comme il se nomme.
Quand j'ai fait ce travail sur le plateau d'Albion, j'avais plastifié des arbres. Un arbre. Je voulais plastifier le terrain ça faisait quoi, 100 mètres carrés. Je voulais figer la vie aussi. Je cherchais des choses de cet ordre, un peu comme si on avait bloqué la vie. Et je suis allé travailler qu'un jour chez Armand, c'est lui qui m'a appris à utiliser le polyester, le plexiglas liquide et tout ça. Avant d'aller faire cette intervention, j'avais passé 15 jours chez Armand. Mais j'ai jamais eu ce truc école de Nice, quoi. Enfin bon, j'ai jamais souhaité.
Alors, il y a une autre rupture, il y a un autre moment important qui, au niveau formel, qui a changé les choses, c'est la commune, le travail que vous avez fait sur la commune.
Oui, c'est plus là, parce que c'est là que je trouve mieux le...
D'abord, c'est en 1971, donc 5 ans après.
C'est en 1971. Et ce qui s'est passé pour la commune, c'est le même constat d'impuissance, d'incapacité à peindre. C'est-à-dire que j'avais été invité pour une exposition sur le thème de la semaine sanglante de la commune. Et je me suis mis à réfléchir sur la commune de Paris, que je n'avais pas étudiée à l'école, d'ailleurs je ne sais pas si on l'étudie maintenant. Et j'ai vu cette explosion extraordinaire, les textes de Courbet, à la fois pour la colonne, mais pour faire circuler les œuvres à travers la France. Donc j'ai vu tout ce qu'elle portait, pas seulement sur l'art, hein, mais d'espoir. C'est la première grande révolution sociale, comme a dit Karl Marx. Donc j'ai mesuré ça. Et à l'aune de cette explosion d'espoir, d'imagination, de vie qu'elle portait, La gravité de l'hécatombe que représentait la semaine sanglante, tout ça. Donc j'essaie, moi, quand je travaille sur un thème, j'ai lu plein de textes dessus, les trucs de Varlin, j'ai lu tout ça. Je me disais, bon, si on parle de la commune, de ses espoirs, de ce que signifie son écrasement, des gens qui ont repris les espoirs de la commune, les autres révolutions, les autres échecs, et il faudrait dire tout ça. dire les choses renaissent, voilà.
Générale, et perpétuelle.
Voilà. Donc j'ai réfléchi, j'ai fait sûrement des croquis, j'en ai encore. Comment dire tout ça?
Le réflexe, c'est de faire des croquis.
Ouais, d'écrire, de lire et de faire des petits gribouillis comme ça. Et ça m'a amené, si j'essayais de faire ça sur un tableau, à tout ce que je déteste, quoi, toute cette peinture politique. Moi, j'ai jamais peint des ouvriers avec des drapeaux rouges, quoi. Ça m'a fait rigoler quand certains de mes amis l'ont fait au Salon de la Jeune Peinture. Ça m'a toujours fait marrer, ça. Je trouvais ça... Je déteste ces peintures soviétiques ou chinoises. Je trouve ça tellement con. Voilà. Et donc, et donc, c'est la réflexion qui m'a amené à me dire, à comprendre que peu à peu, j'ai compris que j'allais me servir des lieux eux-mêmes. Et c'est là aussi, c'est une permanence dans mon travail, de provoquer des anachronismes qui prennent du sens. J'ai donc dessiné un gisant qui était à la fois inspiré des photos des morts de la commune, parce qu'il existe des photos, on les voit tous alignés dans des cercueils et tout ça. En même temps, parce que j'ai toujours fait un dialogue avec la peinture, il y a nécessairement, quand on colle des images dans la rue, et là elles étaient collées au sol, des problèmes de raccourci, de distorsion des corps. Il y avait un clin d'œil aux crises de Mantegna, il y a un tas de choses comme ça. Mais enfin, j'ai fait donc un gisant, une image de gisant liée quand même directement à la commune. Et j'ai décidé, donc j'ai travaillé sur le plan de Paris. Je suis venu la coller à la fois dans des lieux qui avaient un lien direct avec la commune de Paris. J'ai commencé à la butte aux Cailles, où il y a eu parmi les dernières barricades. J'ai fait un Paris de la commune. Puis j'ai collé dans des lieux, même certaines barricades, de la libération de Paris en 1945. Et puis, et surtout, puisque c'est la chose, moi, qui a été déterminante dans ma vie, j'ai les liés à la guerre d'Algérie. Je l'ai collé sur l'escalier du métro Charonne.
Donc là, il y a eu une superposition chronologique.
D'histoire, une espèce d'anachronisme très fort. Et là, on comprend que mes matériaux d'intervention, ils ne sont pas seulement plastiques. C'est-à-dire qu'il y a mon image du cadavre, du gisant.
Inspiré d'images d'histoire de l'art.
Voilà. Je le colle sur l'escalier. Alors, je prends l'escalier du métro comme un sculpteur, c'est-à-dire que c'est un trou qui s'enfonce dans la terre, je colle des corps dessus et l'escalier crée une espèce de rupture, une violence sur l'image du corps qui est assez terrible comme ça. Donc il y a ça d'un point de vue plastique, ce trou qui s'enfonce, l'image. Et en même temps, on est au métro Charonne et surtout ce que porte le métro Charonne, c'est le souvenir tragique de 8 morts qui manifestait contre pour la fin de la guerre d'Algérie. Il y a une espèce d'interaction entre ce potentiel symbolique que porte le lieu, l'image qui vient le réactiver, parce que les gens passent tous les jours au métro Charonne, ils ont bien sûr oublié le drame qui s'est passé là. Mon image vient en quelque sorte le remonter à la surface. Voilà. Et en plus, j'ai collé ça, alors peu de gens y font attention. Tout le monde ne mesure pas tout ça en rencontrant l'image, mais c'est le centième anniversaire de la semaine sanglante. C'est-à-dire qu'il y a le temps qui compte, le lieu et mon image qui vient secouer.
Il y a un enchevêtrement de temporalité, celle de l'histoire, celle du geste, celle du parcours, celle de la destruction de l'œuvre, celle des aventures qu'elle va courir dans un espace commun, celle de la mémoire collective, celle de la prise en charge d'une histoire vivante et présente, hein, et qu'il n'y a pas un temps linéaire, c'est un enchevêtrement de temporalité hétérogène. et qui font partie justement de cette instabilité fragile des objets qu'il propose. On aimerait que ça dure, mais ça va pas durer. On aimerait que ça ne nous retienne pas trop, mais on va pas rester non plus. C'est une espèce d'insolence, de régulation insolente de tous les niveaux de temporalité dans la ville. Et en tous les cas, s'il y a un type de temporalité à laquelle toutes ces temporalités résistent, c'est la durée de l'immobilité, c'est l'arrêt. Le temps où il ne se passe plus rien, l'arrêt, la contemplation, la fixité, la paralysie, je crois qu'il est prêt à intégrer toutes les occurrences de la temporalité à condition qu'elle soit habitée par le mouvement.
En 1977, vous avez fait un travail à Paris qui met en scène le lieu de façon assez spectaculaire, c'est l'expulsion. Mmh. Là, vous introduisez votre image sur des murs d'immeubles en destruction où il reste l'empreinte des chambres, des salles à manger à travers des tapisseries.
La vie des gens, oui.
Alors, c'est un... Pour moi, c'est aussi un travail qui... apporte quelque chose encore en plus. C'est le rôle plastique que va jouer de façon déterminante le lieu. Pas seulement pour son potentiel, bien entendu, mais là, il va y avoir un effet esthétique qu'on va retrouver ensuite à Naples.
Là, on peut dire qu'on est sollicité. Peut-être j'étais sollicité d'abord plastiquement. Je veux dire qu'il y avait à ce moment-là toutes ces rénovations à Montparnasse notamment, et puis dans quelques autour du périphérique là, et on voyait ces immeubles, c'est vraiment bouleversant, hein. C'est quand on voit ces immeubles coupés où on voit la trace de la vie des gens, des choses qui étaient l'intimité la plus intime du quotidien. Moi, quand j'ai collé, j'ai vu des trucs, presque ça faisait pleurer, quoi. J'ai vu des chambres d'enfants où on voyait que les gens avaient découpé des oiseaux, des poissons et les avaient collés autour du lit et tout ça, et c'était mis à la rue, quoi. Il y a un côté viol dans ces destructions d'immeubles. Au fond, moi j'ai toujours pensé, quand je voyais ces humains, qu'il n'y avait pas besoin de mes images. Que, au fond, les gens, c'était, l'œuvre était faite déjà comme ça.
Bon. Alors vos images, pourquoi ?
Moi j'ai... Au moins pour ajouter plus d'humanité, pour faire mieux comprendre, pour... C'est un peu comme s'il y avait une œuvre qui était commencée, que j'avais envie de la terminer, de lui donner tout son sens et tout son sensible. C'est-à-dire, ces traces, ce sont des gens avec leur histoire, leur mémoire et tout, et on les chasse de là, quoi, voilà. Donc j'ai fait un couple... avec l'idée de gens qui partent avec leur histoire sous le bras. Donc, chaque fois, j'essaie de trouver des signes qui disent les choses. Hein. Là, il y avait un peu l'idée de l'exode, puisque j'ai mis un matelas, j'ai mis sous le bras de la femme, il y a un cadre. Vous savez, comme il y a beaucoup de familles, en tout cas beaucoup à la campagne, où il y a déjà d'abord la photo du mariage, puis les enfants, puis les petits-enfants, tout en glisse sous la vigne. Ça fait un résumé, ça fait l'histoire d'une famille, quelquefois, ça. Sous le bras de cette dame, j'ai fait ça, avec des photos de ma famille.
Il y a deux autres travaux que vous avez faits, deux autres interventions. D'abord Pasolini en 1980, puis Rubens en Anvers en 1982, où là, vous piochez vraiment dans les grands maîtres de l'histoire de l'art. Il y a eu une appropriation affirmée de l'histoire de l'art et des icônes de l'histoire de l'art.
Ouais. Bah, ce qu'il y a eu surtout de particulier là, d'une part, c'est que j'avais des espèces d'a priori comme ça. Je croyais que je n'aimais pas beaucoup ces grosses femmes, ces grosses cuisses, mais en fait,
il y a plus de Rubens.
Mais en fait, il y a personne qui a fait des cuisses et des culs pareils comme ça. Il est vraiment Rubens, c'est un très grand peintre. Il y a des et les dessins, il a des dessins, on dirait des Picasso, quoi. Vraiment, il y a des petits dessins, vraiment. Donc, mais c'était pas ma passion. J'étais en train de réfléchir sur l'image de Prométhée et je suis parti sur le Prométhée de Rubens et puis je me suis mis à c'est un dialogue comme ça, je me suis mis à faire des grands dessins inspirés de Rubens. Donc c'est la première fois là que j'ai collé des dessins originaux dans la rue.
Oui.
Déjà, c'était j'ai couvert entièrement la façade, j'ai laissé ma salle vide, on était en face de la maison de Rubens. Et j'ai fait comme ça, comme un clin d'œil, un jeu un peu lyrique, baroque, des grands dessins que j'ai organisés comme ça.
Vous c'était avez un joué grand avec plaisir. L'architecture.
Oui, complètement, avec l'architecture, la couleur de la façade, le plaisir du dessin. Parce qu'au fond, des fois, je m'en privais un peu. Et coller des dessins originaux...
Pourquoi vous vous en priviez du dessin?
J'ai souvent été agacé, en fait, parce qu'on a réduit mon travail au dessin. Voilà. Et mon travail, c'est pas seulement du dessin. Et les gens qui se sont arrêtés positivement ou négativement sur mon dessin, souvent, les ont pas bien regardés.
Quand même, 90% de ces dessins sont voués à la disparition.
Non, mais tout est voué à la disparition. Tout, bien sûr. Non, mais je fais tout est fait sur du papier journal. De quotidien, donc c'est des chutes de rotatives du monde, donc rien.
On retrouve les journaux, les quotidiens, les nouvelles, l'actualité.
Oui, oui, et l'idée de l'éphémère, de la mort annoncée, mais ça, la destruction annoncée, elle fait partie du comment dire, elle compte presque autant que certaines caractéristiques du dessin. C'est un des éléments suggestifs de ce que je propose. Il est dans cette mort annoncée. C'est-à-dire que, je dis, les gens ne réfléchissent pas à tout ça, mais quand on découvre un dessin, d'habitude dans la rue, il y a des pochoirs ou des choses très simples, assez pauvres plastiquement. Là, ils voient un dessin, j'ai collé des dessins à Naples de 7 mètres par 5,
très
avec
élaboré.
Des drapés et tout ça. Il y a une espèce de contradiction, ça crée une espèce de malaise, je crois. C'est de pas comprendre ce qui se passe avec cette chose tellement élaborée, tellement chargée de travail, de signification et de sens. Mais c'est un élément poétique. Par exemple, quand j'ai fait j'ai fait il y a très longtemps, en 77, un parcours en collant Arthur Rimbaud de Charleville jusqu'à Paris sur l'autoroute et tout ça. Je veux dire, ce qu'il y avait de plus rimbaldien dans ce travail, c'était que c'était sur du papier qui allait s'envoler, disparaître et mourir. C'est ça qui était le plus proche de Rimbaud au fond. Je veux dire, pour dire que faire un Rimbaud en marbre, c'est imbécile. Voilà, donc cette fragilité du papier, cette mort annoncée, elle fait partie de la proposition, elle compte beaucoup.
On allait les coins dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel muse et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou, petit pouce et rêveur. J'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un tout froufrou. Assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre, je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur, ou rimant au milieu des ombres fantastiques. comme délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur, un pied près de mon
Ernest Pignon-Ernest, vous répétez souvent que votre travail ne s'arrête pas au dessin, et pourtant, par sa beauté, il a tendance à focaliser l'attention, parfois au détriment de la complexité de votre démarche. Est-ce que leur beauté vous paraît pourtant nécessaire ?
Je trouve que c'est la moindre des choses. C'est nécessairement relativement bien fait. Parce que moi, je prends des colères, j'ai l'impression qu'ils sont ratés, je les recommence tout le temps. Je ne vis pas avec le sentiment que les gens ils disent « tu dessines bien ». Moi, je n'ai pas du tout ce sentiment. Hein. Je travaille, je recommence, je rate. Je vis avec ce sentiment en permanence. Hein. Mais je n'ai pas de problème déjà avec tout ce qu'on disait, la chronologie art contemporain. Parce que je saurais donner une facture plus art contemporain à mes dessins. Hein. Je saurais faire des morceaux avec la main gauche et laisser des coulures. Non, je sais que ça serait plus facile. En cours de route, mes dessins ont des fois un caractère plus contemporain. Mais étant donné leur objectif, la façon de les inscrire dans les lieux et tout, ils appellent cette apparence de réalisme dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est tout. Et donc, tant pis, je sais que si je gommais un peu ou que si je mettais des goulures dessus et tout, ça ferait plus contemporain, moins fini, mais je cherche pas à plaire au clergé de l'art contemporain donc, ou à rentrer là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la façon, au fond, dont on s'inscrive dans les lieux, parce qu'il se passe un truc quand même très particulier avec mon travail, qui est difficile à apprécier, mais il est évident que rencontrer une image dans le contexte social du quotidien, c'est-à-dire dans les lieux où on vit tout le temps et tout ça, c'est pas la même chose qu'aller le rencontrer dans un lieu où on l'attend, dans un musée. Rencontrer une image, dans le contexte de sa vie quotidienne, il y a quelque chose de un peu indéfinissable, mais qui touche un peu à l'identification, à des choses qui devaient se passer quand il y avait ces grandes processions, d'autant de ducho, où il y avait une identification avec l'image du sauveur, du Christ, ces processions qui trimbalaient des images. Et il y a une chose de cet ordre dans ce que je propose. Et je pense que ça compte.
Il y a une référence religieuse ?
Moi non, mais on a une histoire qui est nourrie de tout ça de toute façon. Alors il est probable qu'il y a des résonances de cet ordre, même quand on le fait pas exprès. Je veux dire, l'image que je réalisais à Soweto en travaillant dans le bidonville, d'un coup il y a une équipe qui fait un film, elle me l'envoie, elle écrit la Pieta sud-africaine d'Ernest Pignon. J'avais pas pensé une seconde, mais bon. Mais ça c'est on a en commun des choses comme ça. Mais mon travail contient ça aussi. Il dit ça. C'est-à-dire qu'il dit qu'on a en commun, quand on le rencontre dans la rue, on a en commun une histoire, une cité, des références. Il contient tout ça. Il parle de l'humain.
Et l'histoire religieuse a parlé de l'humain.
Elle en fait partie, je veux dire. Même si on n'est pas croyant, je veux dire. Pasolini, quand il s'affirme comme marxiste, mais il fait m'aider l'évangile selon saint Matthieu, je veux dire, moi je me réclame un peu de ça, de ce type d'héritage.
Mais il y a quelque chose qui m'a toujours étonnée. Le fait que vous soyez continuellement obligé de dire « Attention, pour ceux qui n'ont pas avancé plus dans votre travail, attention, mon travail ne s'arrête pas au dessin. »
Si on met des dessins dans la rue, c'est pas comme dans une galerie, hein, je veux dire, où tout est blanc autour et tout est fait pour qu'on regarde le dessin. On arrive, on va les rencontrer frontalement. Tout est fait pour qu'on les voit à pleine face. Quand on met un dessin dans la rue, il va être appréhendé par la droite, par la gauche, sans qu'on s'y prépare, de façon inattendue et tout ça. En plus, je mets un dessin, on parlait des trucs de Naples, je mets un dessin sur un palais qui fait 22 mètres de haut, qui a des cariatides, qui a 20 draps aux fenêtres et tout ça. Si le dessin n'est pas étayé, baraqué, très fort, très présent, on ne le voit même pas. On ne le voit même pas dans le bordel visuel de Naples, ça n'existe pas. Donc, il faut qu'il soit très fort, qu'il y ait une présence de cet ordre. Il faut qu'il s'y intègre de façon très juste. Alors ça, c'est parce que, effectivement, je comprends les lieux, ce que je disais tout à l'heure. Je marche la nuit, le jour et tout ça. Et je sais comment... Et là, je reviendrai sur le quand on dit académie. Il y a un espace dans mes dessins qui n'a rien à voir avec l'espace de la peinture académique du 19e siècle. Mes dessins, ils sont complètement faits pour l'espace de la rue. Il y a même des anamorphoses à l'intérieur, oui. des tensions, des trucs complètement faux qui permettent qu'on puisse les rencontrer complètement par la droite ou complètement par la gauche. Il y a des distorsions de corps et des choses comme ça. Mais... je crois que les gens savent pas bien regarder les dessins, une espèce d'a priori que le dessin ou la peinture
c'est de l'art. Dessin ou de la peinture c'est de l'art. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de finalement de leur servir ce qu'ils attendent?
Pas du tout, parce que les gens rencontrent dans la rue, ils s'attendent pas du tout à voir de l'art dans la rue. On s'attend pas du tout à voir de l'art dans la rue, pas du tout. C'est-à-dire que mon travail est bâti sur une contradiction permanente. J'essaie de faire en sorte que les personnages, parce que c'est pratiquement toujours des personnages, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait assez de réel pour qu'ils s'inscrivent dans la rue en créant un trouble. Ce qui est le plus évident dans ce sens, c'est le fait qu'ils sont grandeur nature. Et en même temps, il y a un effet de distance. L'effet de réel, ils sont grandeur nature. L'effet de distance, ils sont noir et blanc. C'est la convention du dessin. Il y a la feuille blanche, c'est noir et blanc. Et quand on les voit dans la rue, on voit bien que mon travail, c'est un bout de réalité, le lieu que j'ai choisi pour toutes ses qualités, visible, pas visible, dans lequel j'ai glissé une fiction. Mon travail, c'est ça. C'est une fiction glissée dans le réel qui vient changer le regard qu'on a sur le réel, qui vient le perturber, le secouer.
Et Naples est une apothéose de ça. Vous théâtralisez la réalité.
Quand l'idée de théâtrale, il y a un truc de cet ordre. Moi, je pense que c'est un peu de mal à expliquer ça. Comment je peux expliquer ça? J'ai expliqué ça par rapport au ready-made, par exemple. Dans le ready-made, il y a le fait qu'on mette une œuvre dans un musée produit une espèce...
Un objet tout fait.
Le passage au musée fait qu'il y a
sur lequel on n'est pas intervenu.
Voilà. Fait qu'il y a une superposition entre l'objet réel et son signe. L'objet, qu'il est dans le musée, il devient le signe de l'objet.
Il n'est pas représenté, il est présenté.
Il est présenté et il devient comme le signe de l'objet, parce qu'on passe dans le lieu culturel. Moi, je pense que je provoque une chose du même ordre. La présence de mes images grandeur nature dans un lieu produit une espèce de renversement. Mon image sur une maison instille à la maison le caractère d'un truc représenté. Et donc, ce que je provoque en mettant mon image dans un lieu, c'est le lieu que j'offre comme œuvre, que je propose comme œuvre. Moi, je me sens très proche d'œuvres qui m'avaient beaucoup touché, mettons de Boltanski, quand il avait mis des tas de vêtements au musée d'art moderne. Il y a quelque chose de très fort. On s'est dit, dans ces vêtements, il y a eu des gens, il y a une histoire. C'est cette histoire qu'il nous propose, et l'émotion provient de ça. Moi, c'est l'immeuble que je mets. L'immeuble, et je joue avec l'immeuble comme il joue avec ses vêtements. Je raconte, je propose l'histoire de ce lieu en glissant un personnage qui stigmatise ce lieu.
In-situ, comme certains artistes qui restent dans le in-situ, qui gagnent leur vie en se faisant payer au moment où ils font une œuvre in-situ.
Oui.
Je ne le veux pas
parce que ce sont des... c'est pas une critique pour les gens qui le font, mais ça signifie qu'on fait des œuvres in situ, convenues, attendues, commandées dans le contexte, dans les lieux où on a demandé et tout. Moi, je veux avoir totale liberté. Donc, 98% des choses que je fais, c'est en totale liberté, sans rien demander
à
personne.
Et les 2%, c'est pour garder cette totale liberté quand vous exposez des dessins, des photos dans des expositions que vous les vendez.
C'est que ça me donne cette liberté. C'est-à-dire, moi, même à Naples où j'ai collé plusieurs centaines d'images, j'ai jamais demandé une autorisation, même pour coller sur la cathédrale le jour de Pâques. Non, je demande rien. Donc il faut demander ni argent ni autorisation pour avoir une totale liberté. Si on demande, on dit non. Et les galeries, c'est une chose importante. Pour moi, je suis très content d'être à la galerie Le Long. C'est important. D'abord, se confronter avec d'autres artistes, ça permet de faire le point. C'est une vraie galerie où les galeristes, on discute avec eux. C'est un peu comme chez un éditeur. Donc, c'est intéressant pour ça. Puis surtout, moi, j'étais très content. C'est une galerie où il y a Bacon et des gens comme ça. Donc, ça me fait très plaisir. Mais c'est ce qui me donne la liberté. Je veux dire, c'est avec l'argent que j'ai gagné en vendant les travaux préparatoires de Naples que je peux me permettre d'aller coller des trucs dans un bidonville en Afrique du Sud ou en Algérie.
Les cabines téléphoniques, là, on n'est plus du tout sur la peau des murs. On ne joue plus avec l'esthétique de la peau des murs, ce qu'il suinte et comment une de vos interventions, un de vos dessins, une de vos sérigraphies vient les hanter. On est là sur quelque chose de beaucoup plus brutal. On est sur un dessin qui est collé sur les vitres transparentes des cabines téléphoniques. Et ce sont des dessins de SDF. De même que...
Mais ça, c'est vous qui l'interprétez, hein. SDF. Moi, j'ai fait des personnages. Il y a des personnages, il y a des gens qui n'ont pas pensé SDF. Hein.
Là, on est dans la brutalité du tissu urbain. Et là, on n'est plus dans les beaux palais. On n'est plus dans les vieilles pierres. Vous comprenez ?
C'est la ville qui nous propose ces images, quoi. Les cabines téléphones m'intéressaient, un lieu de communication dans lequel on est seul, dans lequel on est isolé, mais en même temps avec ces lumières, ça a un côté théâtral, on dirait qu'on est dans une vitrine. C'est un objet plein de contradictions qui était vraiment intéressant et qui avait ce côté froid. C'est-à-dire, là, je me suis dit, je vais prendre un objet comme aseptisé, quoi. Métal et verre, quoi. Vraiment le truc froid, glacé, contemporain et tout ça. Je n'ai choisi que des cabines dans lesquelles se reflétaient plein de lumières, plein d'images, plein de feux. Il y a une cabine au boulevard Sébastopol, où il se reflétait dedans, huit feux, les huit feux rouges de tout le boulevard venaient taper sur mon personnage comme ça. Et donc, il y avait en permanence ces couleurs qui venaient les frapper comme ça, les zébrer, les stigmatiser, tout ça. Plus les feux rouges des bagnoles qui se reflétaient dedans, j'ai travaillé complètement sur les reflets, les néons des pharmacies verts qui traversent les personnages, tout ça. Les photos peuvent pas rendre compte de tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis que mon travail est un peu altéré par la photographie.
Oui, c'est pas le sentiment qu'on a avec le cap. Mmh. Au cap, on a au contraire... On a au contraire le sentiment que la photo traduit bien l'attention qu'il y a dans cette ville.
Ouais, moi, et... je vois toujours comme un manque, hein, vraiment. Voilà. Ouais, moi, je vois toujours comme un manque. C'est vrai qu'il y a un tournant. Les cabines, c'est la première fois que des collectionneurs de photos achètent mes photos chez Le Long. Des grands cinéastes et tout ça qui ont acheté des photos de mes cabines de téléphone. Et aussi de ce que j'ai fait en Afrique du Sud. Ouais.
Tout d'un coup, vous les soignez, ouais. Vos photos.
C'est-à-dire que jusque-là, je faisais clic-clac et tout ça n'importe comment. Et je suis ami avec Georges Rousse, qui est un très bon photographe, qui m'a dit, et on est dans la même galerie Bertschy à Genève, il m'a dit, mais tu déconnes, tes photos, c'est dommage, elles sont vraiment mal foutues. Tu devrais prendre un pied, prendre ce que j'avais jamais fait. Quoi. Donc, depuis, je fais attention. Quand c'est la nuit, au moins, il me dit, tu peux pas faire une photo de nuit sans mettre un pied, ce que j'avais jamais fait. Donc, il m'a prêté un 6-6, et les meilleures photos des cabines, c'est le 6-6 de Georges Rousse. Et après, on est allé ensemble acheter un appareil. Donc, mais c'est vrai que la photo ne me préoccupait pas vraiment. Quoi. J'ai toujours pensé que c'était seulement un reportage sur mes interventions. Je suis allé en Afrique du Sud, en fait, parce que j'avais le hasard, parce que le musée contre l'apartheid m'avait amené à voir l'ANC, rencontrer Mandela, et je m'étais passionné pour ce pays où il y a 13 langues officielles. Je me disais, c'est extraordinaire, un pays où il y a tellement de communautés, de cultures et tout. Nous, on en a 2-3 et on a des tensions. Donc, j'avais envie de travailler là-dessus, et je suis allé en Afrique du Sud, et quand je travaille à l'étranger comme ça, je fais en sorte de montrer mon travail. Donc il y a 4-5 musées d'Afrique du Sud qui m'ont invité. J'ai fait des projections de mes interventions passées. Et chaque fois, les gens dans la salle me disaient « Mais avec ce que vous faites, travaillez avec nous sur le sida. » Donc du coup, j'ai travaillé avec deux groupes, un à Soweto et un à Durban, sur le sida.
Qu'est-ce que vous dites du sida ? Qu'est-ce qu'il ne s'agit pas seulement de dire c'est une maladie terrible qui fait mourir énormément d'habitants de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous sous-tendez dans ce travail?
J'ai fait une image très, très simple. J'ai rencontré pendant plusieurs semaines le milieu. Je me suis noyé dans le milieu du sida. Donc les associations, les hôpitaux, les dispensaires. Je suis allé dans des hôpitaux où il y avait 2 personnes dans chaque lit, des gens de 30 kilos, enfin l'horreur. Bon, j'ai eu beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal. J'écoutais les gens, ce qu'ils disaient, j'essayais de faire une image qui exprime ça, ou qui soit un support, parce qu'ils continuent à la coller encore. Hein. Il y a des gens qui en ont encore. D'habitude, je colle toujours tout, moi, mais là, j'ai laissé le cadre de sérigraphie. Donc, j'ai fait une image je vous la résume là. Les gens disaient, les plus conscients, les plus mobilisés, disaient il faudrait qu'on arrive à convaincre les gens que la lutte contre le sida, c'est la même lutte que celle que nous avons menée contre l'apartheid. Faire un, superposer les deux. C'est une genre grande cause nationale. Il faut que tout le pays se mobilise contre cette pandémie, comme on l'a fait contre l'apartheid. Ça, c'était vraiment délicat, mélanger les deux. Alors ça, c'était un problème important que je voulais faire passer dans l'image. Et puis le rôle des femmes essentiel, c'est-à-dire que tous les médecins que j'ai rencontrés m'ont dit la solution passera par les femmes. Soit il faut qu'on trouve un préservatif qui est la responsabilité des femmes parce que les mecs sont irresponsables et tout ça. Le rôle essentiel des femmes. Donc j'ai fait une image très simple. J'ai eu un déclic. Je suis tombé sur cette photo. Tout le monde a vu cette image. C'est un jeune garçon qui s'appelle Hector Peterson qui a été tué dans la première grande émeute contre l'obligation de parler l'afrikaner en 73. Et c'est son copain qui l'a pris dans les bras et qui est parti en courant. Et cette image est devenue l'image de la lutte contre l'apartheid. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'endroit où ça s'est passé, ils sont en train de faire un monument qui symbolise la lutte contre l'apartheid. C'est devenu cette photo, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Il y a un garçon qui doit avoir 16-17 ans qui court avec un gamin dans les bras. Et donc, quand je me suis rendu compte que cette image symbolisait l'apartheid partout en Afrique du Sud, j'ai bâti mon image à propos du sida. J'ai fait comme du subliminal. J'ai fait une femme qui porte un malade dans les bras, mais quand on la voit de loin, on pense presque que c'est l'image de l'apartheid. Voilà, j'ai fait la même façon d'éclairer l'image, le soleil, le porté. Voilà.
Vous avez superposé deux informations.
Voilà, ouais, pas directement, mais dès qu'on la voit, on pense à ça. Donc, et j'ai bâti mon image sur le dessin d'une femme qui est comme une espèce de colonne, c'est le poteau de mon dessin, tout repose dessus. Elle a des mains, alors les gens croient toujours que c'est un dessin académique, autre réaliste, mais elle a des mains qui sont deux fois, trois fois plus grandes que des mains réelles. Tout a l'air de reposer sur elle. Comme ça, elle regarde plein de faces. Et dans les bras de cette femme, j'ai mis un homme malade. La façon dont elle le tient et tout doit dire assez l'idée qu'il ne faut pas abandonner, quoi. Voilà, j'ai les deux, trois choses que j'ai esquissées au départ. Donc, j'ai travaillé avec une troupe de théâtre amateur de Soweto. Et c'était une façon aussi d'inscrire mon travail, de lui donner une résonance comme ça. Je l'ai travaillé avec des associations du bidonville. C'est avec des gens là-bas. Je les ai imprimés sur place. On est allé les coller avec eux la nuit, le jour, et chaque fois ça a servi à des rencontres, à des discussions. Je travaillais que sur des lieux, on a collé que sur des lieux remplis de vie, où les gens vivent dans la rue. Voilà. Et elle est toujours superposée à des endroits où il y a plein d'enfants, à des endroits où il y a des légumes, où il y a des marchés. Voilà. Avec les gens du quartier, on a choisi les lieux pour leur force aussi de vie qu'ils portent. Il y a une espèce de contradiction.
Ernest Pignon-Ernest, après, disons, 40 ans de carrière, si on peut appeler ça comme ça, de démarche artistique, vous avez toujours la même méfiance par rapport au mot « œuvre
» À cause de la difficulté à définir ce que sont mes œuvres. Quand je dis que le jour, la date compte, que c'est un de mes matériaux, que le lieu compte, c'est un matériau. Donc, l'œuvre, souvent, c'est plutôt l'idée d'un tableau, d'une sculpture et tout ça. Et donc, mon œuvre est tellement hétérogène, s'il y a œuvre, que c'est presque difficile d'appeler œuvre...
Hétérogène.
Oui, d'appeler œuvre une chose aussi disparate.
Est-ce que l'histoire de l'art, pour vous, c'est un matériau comme un autre ? dans lequel on peut puiser des références?
Oh, complètement, pour moi, oui, je suis complètement à l'aise avec ça et je suis très critique à l'égard du poids de cette espèce de chronologie pesante de l'art. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on en est complètement libéré. On a fait le tour.
On n'est plus dans la succession des mouvements.
Bien sûr, c'est fini, quoi, tout ça. Donc, on peut très librement. Moi, au cours des années, je suis allé pêcher dans la biotechnologie parce que j'avais besoin pour un travail. Et puis, une autre fois, dans la peinture du 17e, je me sens complètement libre par rapport à ça. Vraiment, je suis un peu agacé par le côté moderniste de certaines critiques qu'on m'a fait justement à propos de ça. Moi, je me sens tout à fait libre. Je crois que ça n'a plus cours, quoi. Et même, je pense que mon travail contient presque une espèce de mise en cause de cette chronologie de l'histoire de l'art.
C'est-à-dire ?
Elle la conteste, parce que... Je prends une image, je fais exprès hein, pour m'expliquer, je prends une image de Caravage, je l'inscris dans un lieu et je fais de ce lieu un espace plastique exactement comme le fait Buren avec ses rayures. Donc je veux dire que je produis une proposition plastiquement très contemporaine en m'appuyant ou en dialoguant avec un peintre du 17e. Moi ça vient comme une espèce de nécessité, je le fais. Je veux dire que les gens, c'est-à-dire dans l'histoire de la peinture, de toute façon, je pense que les gens qui ont renouvelé les choses, c'est pas du tout des gens qui cherchent à renouveler, ces gens qui ont bouleversé les choses, que ce soit, je sais pas, Giotto, Piero della Francesca ou Greco ou Kandinsky, ils avaient des choses nouvelles à dire et ça les a amenés à trouver une écriture, une forme nouvelle. Et là, on est dans un truc. Actuellement, une espèce d'aberration. Des gens cherchent des choses nouvelles et ils n'ont rien de nouveau à dire. Alors, je pense actuellement qu'on vit une période d'indigence de ce type. Pour moi, Jeff Koons, des choses comme ça, c'est de cet ordre.
Le rapport à la beauté pose vraiment aujourd'hui un problème spécifique qui est celui de la grande tradition esthétique de l'art. À savoir, est-ce que quelqu'un qui, aujourd'hui...
Marie-Josée Mondzin...
inaugure des opérations à la fois esthétiques et politiques dans la ville, voilà, des processus politiques et esthétiques dans la ville, doit radicaliser sa position en refusant toute esthétisation, comme Buren, par exemple. Mais du coup, se pose alors inversement la question de la transmission. Donc il y a ce souci de transmission, ce besoin de non-sophistication, cette valorisation des grands lieux de la culture parce que lui-même, venant et s'en revendiquant d'un milieu populaire où la culture, c'est la découverte de la beauté des choses dans des temps très anciens, pour dire les choses platement, et de partager ça avec ce que... on appelle le peuple, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément accès à cette mémoire singulière et luxueuse. Et il y a là toutes des strates, et je pense que Ernest est sans arrêt sur une brèche, sans arrêt sur un seuil. Hommage à la grande culture et en même temps hommage à la pauvreté. Hommage à l'ignorance et hommage au savoir, hommage à la virtuosité et au respect des œuvres, hommage rendu à l'éphémère et à la destruction, hommage à la contemplation, hommage à l'itinérance et au vagabondage. Et c'est en ce sens que je trouve que c'est une œuvre extrêmement contradictoire, et c'est en ce sens qu'elle m'intéresse, parce que je crois que la meilleure façon pour une œuvre d'être politique, c'est d'être dans cette instabilité contradictoire qui oblige sans arrêt celui qui la regarde à se redéfinir, à se redemander à quelle place il la regarde. Et donc, d'où il la regarde, comment il la regarde, qu'est-ce qu'il va en faire pour lui-même. Je crois que c'est la meilleure façon d'être politique, c'est de s'en remettre à celui à qui on s'adresse quant au sens de ce qu'on fait, de ne pas l'asséner. Il ne fait pas de l'art militant, il ne fait pas de l'art qu'esthétique, il ne fait pas de, que de l'art de musée, il ne fait pas que de l'art destructible. À nous de réfléchir à ce que nous attendons de l'art. Et je pense que les meilleurs artistes politiquement sont ceux qui nous font confiance sur ce sujet.
Qu'est-ce qui vous fait passer d'un travail à l'autre ?
La curiosité, le plaisir, la lecture. Là, il y a quelqu'un qui fait une thèse sur mon travail de Naples. J'ai donné la liste des livres que j'avais lus et j'ai vu qu'il y en a 92. Voilà. Où là, actuellement, je fais un travail à partir des textes des grandes mystiques chrétiennes. Et c'est pareil, j'ai dû lire... bientôt une centaine de bouquins. C'est donc le plaisir de découvrir des choses, une espèce d'enrichissement, de découverte, de plaisir, puis de masochisme aussi, parce que je fais crâler, de trouver que chaque fois je me dis je devrais arrêter, de piétinement. Là, sur les grandes mystiques, ça fait des mois que je travaille dessus.
Qu'est-ce que c'est comme projet ?
C'est une espèce d'installation, bien que j'aime pas le mot. Là, ça sera pas dans la rue, c'est dans des lieux très précis. Plutôt baroque, genre l'église de la Vieille Charité à Marseille ou l'église de la Madeleine à Lille, des choses comme ça. C'est un environnement de 7 grands dessins inspirés de textes de femmes comme Angèle de Foligno, Hildegarde de Bingen, des choses comme ça. Et sinon, là, je commence à travailler sur le mur qui se construit en Palestine. Voilà. Parce qu'il est en train de se superposer à... Le mur traverse le village où on situe la résurrection de Lazare dans l'évangile, quoi. Voilà. Donc, je voudrais essayer de travailler là-dessus, si c'est possible.
C'était Ernest Pignon-Ernest à hauteur d'homme, proposé par Elisabeth Couturier avec Ernest Pignon-Ernest, Pascal Convert, artiste plasticien, Marie-Josée Mondzin, philosophe, directrice de recherche au CNRS. Prise de son, Simone Rongier. Mixage, Noélie Pellegrin. Réalisation, Ghislaine David.
No.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 19 octobre 2005 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.